La place de l'électricité dans la transition énergétique. En fait, on pourrait s'arrêter tout de suite, je pourrais vous répondre très simplement, elle est centrale, sans jeu de mots. Et on a à peu près fait l'essentiel de ce que je vais essayer de démontrer ce soir. Je vais le dérouler au cours de cet exposé. Ça, c'est le menu. Et on va partir du principal défi auquel notre société, et peut-être même notre civilisation, est confrontée, c'est-à-dire le dérèglement climatique, et sa principale cause, que sont les gaz à effet de serre. Et puis, progressivement, on évoquera l'amorce d'une solution, c'est-à-dire la transition énergétique, et la place de l'électricité dans cette transition énergétique. Voilà globalement pour le menu du soir. Le premier menu du soir. Je pense qu'il doit y en avoir un autre. Partons de quelques constats sur le dérèglement climatique. Et je vais surtout m'appuyer sur la deuxième partie du sixième rapport du Groupement international d'experts sur le climat, le GIEC, qui a été publié tout récemment. Hein, un organisme qui collationne un peu toutes les travaux scientifiques qui sont faits en matière de changement climatique. On va s'arrêter juste une seconde sur celui-là. Il dit quoi, le rapport du GIEC ? Il dit sans équivoque, l'activité humaine réchauffe la surface de la planète. Nous sommes rentrés dans ce que les spécialistes appellent l'anthroposphère, c'est-à-dire que l'humain, avec son activité, est capable de transformer massivement la planète. Et son activité, elle émet des gaz à effet de serre qui provoquent des changements rapides dans l'atmosphère, dans la cryosphère, c'est-à-dire toutes les glaces terrestres et marines, dans la biosphère aussi, ça impacte les êtres vivants, et bien sûr les océans. Alors les gaz à effet de serre, j'y reviendrai un petit peu plus tard, une bonne partie est captée par l'océan, par les océans notamment, mais le reste, ça se concentre dans l'atmosphère, et du coup, ça provoque le fameux effet de serre qui réchauffe la planète. Et là, on est en train de se préparer, en 150 ans à peu près, à avoir un réchauffement qui, la dernière fois qu'il s'est produit sur Terre, s'est produit en 40 000 ans. Donc on va faire en 150 ans ce qui s'est produit la dernière fois en 40 000 ans avec un certain nombre de bouleversements. Je pense que la courbe, elle est assez parlante en la matière. Alors du coup, ça fait quoi ? Ça fait un certain nombre... Les conséquences sont systémiques, c'est-à-dire qu'elles s'entretiennent ou elles s'alimentent, elles s'auto-alimentent les unes les autres. Vous avez un certain nombre de points qui sont mentionnés là. Juste pour l'avoir en tête, les années 2010 ont été plus chaudes que les années 2000, qui elles-mêmes ont été plus chaudes que les années 90, qui elles-mêmes ont été plus chaudes que les années 80, puis je pourrais continuer un tout petit peu comme ça. Donc c'est très très clair, c'est en train de se réchauffer, l'ensemble de notre planète est en train de se réchauffer, et ce sont bien les gaz à effet de serre qui sont les principaux facteurs de ce réchauffement climatique. Désormais, toute la communauté scientifique est d'accord avec ça. Il commence à ne plus y avoir vraiment de climato-sceptiques. Bon, il y en a encore quelques-uns qui se trompent, mais pas tant que ça. En 40 ans, la banquise arctique, elle a diminué de 40%. Ça veut dire qu'aux alentours de 2050, il n'y aura plus de glace au pôle Nord. Alors, ce n'est pas très, très grave en soi, puisque de toute façon, c'est de la glace qui flotte. Hein. C'est un peu comme dans votre glaçon, le glaçon de votre verre le soir, ça ne fait pas déborder quand ça fond. C'est beaucoup plus problématique sur l'Antarctique, le sud. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on vient de nous dire récemment là, qu'ils étaient à plus de 40 degrés au-dessus des moyennes traditionnellement enregistrées. Hein. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Je parle trop fort. En 2017, il y a un gros glaçon qui s'est détaché de l'Antarctique. Il était codifié A68. Il faisait deux fois la superficie du Luxembourg. 150 milliards de tonnes d'eau douce. Il a fondu en 2021. Et là, actuellement, c'est en train de se préparer. En 2022, on a constaté qu'il y a un glacier qui s'appelle le glacier Twence, que les journalistes qui sont en verve ont appelé le glacier de l'apocalypse. Il fait 120 km de long, 600 km de large, ou dans l'autre sens si vous voulez. Il fait à peu près 3 km d'épaisseur. C'est-à-dire c'est un quart de la France qui s'apprête à se détacher, à se fissurer et à partir se promener dans les mers. Voilà, c'est quelques exemples d'illustrations. Il y a tous les autres thèmes qui sont évidemment à évoquer. Les épisodes de chaleur extrême qui ont doublé depuis les années 80. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dîné avec Dominique Bourg. Je ne sais pas si vous savez qui est Dominique Bourg. C'est un des soutiens actifs de Sandrine Rousseau, qui est elle-même quelqu'un d'assez tonique côté vert. Je pensais que ce soir-là, on allait manger le nez. Non, c'est un monsieur très intéressant. Et notamment, il m'a dit, on a fait le constat, les climatologues ont fait le constat que l'année dernière, s'est produit un phénomène qu'on pensait ne voir arriver que vers les années 2100. C'est ce qu'on appelle la chaleur humide intense. Vous avez plus de 50 degrés, plus de 50 degrés, plus de 80 degrés d'hygrométrie dans l'eau. Et c'est mortel. C'est juste mortel. Vous pouvez mourir en quelques heures. Et ben, on pensait que ça ne se produirait sur la planète que vers les années 2100. Ça s'est produit au Pakistan et au Venezuela au cours de l'année 2020. Donc ça commence à s'amorcer. Voilà. Donc tous ces phénomènes s'alimentent les uns et les autres. Et c'est sûr. On le sait maintenant, de toute façon, la température de la surface du globe va continuer à augmenter, parce qu'évidemment, il y a une inertie. Hein. Tout ce qu'on a émis, notamment le gaz carbonique, ça reste à peu près 100 ans dans l'atmosphère. Donc tout ce qui est émis va continuer à avoir des effets, quoi qu'on fasse, même si on arrêtait aujourd'hui. Strictement, ça continuerait à se réchauffer. Donc les scientifiques sont plutôt convergents sur le fait qu'on va dépasser les 1,5 à 2 degrés au cours du 21e siècle, même si on est en capacité de faire une réduction massive des émissions de CO2. Alors, ce n'est pas linéaire. Hein. 2 degrés, c'est bien plus embêtant que 1,5. Et si demain, ça devait être 3, ce serait évidemment encore plus problématique. Donc, on n'a juste pas le choix. L'ensemble de la communauté humaine sur la Terre, est en capacité de décarboner massivement sur l'ensemble de la planète. Et quand je dis massivement, c'est évidemment tous les acteurs économiques sur la planète. Et vite, parce que là aussi, on estime que le crédit qui nous reste à peu près en émissions de carbone, au rythme où on les met aujourd'hui, c'est à peu près 10-12 ans. Au-delà de ça, on en aura émis suffisamment pour faire en sorte qu'on enclenche des phénomènes qui seront à peu près irréversibles. Ça va s'améliorer. Je suis pas venu complètement pour vous démoraliser là. Quand j'interviens auprès des plus jeunes, je dis tout le temps, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Attachons-nous un instant sur ce que sont ces fameux gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Mais ce n'est pas très grave la vapeur d'eau, notamment l'évaporation des océans, parce que ça ne reste pas longtemps dans l'atmosphère, une demi-journée à peu près, puis après, voilà. Donc c'est un cycle naturel. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a déréglé, nous, avec nos activités humaines, ce cycle naturel, et notamment en émettant le fameux gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le CO2. Lui, il ne reste pas une demi-journée, il reste à peu près un siècle dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que celui qui a été émis depuis 100 ans, il est là. Et celui qu'on émet aujourd'hui, il va rester 100 ans. Vous avez le méthane, qui est en moindre quantité, mais qui est aussi très très problématique parce qu'il a un effet réchauffant beaucoup plus important. Puis le fameux protoxyde d'azote, là, vous savez, c'est le gaz hilarant. Notamment les engrais azotés qui sont utilisés dans l'agriculture, ça en émet beaucoup. Alors lui, les savants, ils disent que ça reste à peu près 25 000 ans, quoi, à peu près, dans l'atmosphère. Donc celui qui est émis, il va rester un certain temps. On le voit bien, la courbe elle le montre bien. Hein, vers 1800, là, ça commence à monter évidemment très très fort, parce que l'inflexion, c'est la révolution industrielle, c'est le début du 19e siècle, c'est le début du développement de l'ensemble des pays occidentaux, parce qu'il y a évidemment une relation très très forte entre les émissions de gaz à effet de serre et le développement économique, la fameuse croissance. Ah, pour l'instant, on n'a pas réussi à décorréler ce qu'était la croissance d'un côté et la consommation d'énergie de l'autre. Elle est assez intéressante, cette courbe aussi. C'est la courbe de consommation mondiale d'énergie. Finalement, on a une sorte de belle exponentielle là. Et on constate que même la guerre de 14, même la guerre de 39-45, le choc pétrolier de 74, la guerre du Golfe, tout ce que vous voulez, ça n'a jamais vraiment impacté significativement la hausse constante des consommations d'énergie. Depuis 1800, La population mondiale, elle a été multipliée par 8. Je vais y revenir. Et la consommation d'énergie par habitant sur la planète, elle a été multipliée par 3,5. Ça veut dire que la consommation d'énergie depuis 1800 a été multipliée par 27. 27. Mais, il y a la moitié de la population mondiale qui ne consomme pas plus d'énergie aujourd'hui que leurs ancêtres de l'époque de 1800. Et ils ont des aspirations au développement, ce qui peut se comprendre.
Ce qui est intéressant aussi à constater dans cette courbe, c'est qu'il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de remplacement d'énergie.
Hein, c'est pas parce qu'on a commencé à consommer du pétrole qu'on a arrêté de consommer du charbon. Le pétrole s'est superposé à la consommation de charbon, qui continue à croître. L'année dernière, on a consommé plus de charbon qu'on n'en avait jamais consommé sur l'ensemble de la planète. Et puis, quand le gaz est arrivé, il ne s'est pas substitué au pétrole. Et puis, vous pouvez continuer. Bon, le nucléaire, vous voyez, c'est une toute petite partie. Mais pour autant, ça ne se substitue pas pour l'instant dans les consommations d'énergie. Et les pays qui sont en voie de développement, ils ont des aspirations au développement et donc ils ont des gros besoins énergétiques. Ils aspirent évidemment, peut-être pas arriver aux standards des sociétés occidentales, mais en tout cas à améliorer leurs conditions de vie. Et on ne voit pas bien comment on pourrait les dissuader. C'est une aspiration assez légitime. Alors, si on fait un peu de géolocalisation, qui émet du gaz carbonique, c'est assez frappant. Là, c'est 1970, puis là, c'est 2019. Vous avez la Chine, qui était à 0,91, ils sont à 11,54 en milliards de tonnes. Donc, ça veut dire qu'il y a une croissance incroyable, exponentielle de la consommation. Un autre pays qu'il faut aussi noter, alors en 70, on ne le voit même pas, puis là, il est là aujourd'hui, c'est l'Inde. De 60. La Chine et l'Inde, c'est 37% de la population mondiale. Considérable. Considérable. Et donc, avec des aspirations au développement importantes. Alors, il y a encore un certain nombre d'autres pays émergents aussi qui sont en situation d'émettre très très fort. Vous voyez, finalement, il y a une forme de stabilisation sur les pays occidentaux. L'Amérique, 4,69, 5,11, quand même. Ça diminue pas. Ça diminue pas, mais enfin, ça monte évidemment moins. Mais pour autant, les pays qui sont en phase d'émergence, ils bâtissent leur croissance de la même façon que nous avons développé la nôtre, mais avec un effet évidemment très, très multiplicateur. Ça, c'est l'évolution. C'est une des courbes qui existe d'évolution de la population mondiale. En 1900, il y avait 1,5 milliard d'êtres humains. En 1960, moi, quand je suis né, c'est-à-dire 60 ans plus tard, ça avait doublé. On était 3 milliards. Et puis, 60 ans plus tard, en 2020, on est 7,7 milliards d'êtres humains sur la planète. Et puis, selon les estimations, les Nations Unies disent 9,7 en 2050, peut-être 11 en 2100, 11 milliards d'êtres humains. Donc, il y a une dynamique aussi d'aspiration aux consommations qui est corrélée à l'évolution de la population mondiale. Il n'y a pas de prévisionniste qui imagine des scénarios extrêmement catastrophiques, comme une vraie pandémie très, très meurtrière, type la peste de 1347. La personne a joué ces scénarios, comme personne n'a joué la Troisième Guerre mondiale. Bon, ce serait sans doute plus désespérant encore qu'autre chose. Mais ça veut dire que donc on est quand même sur une tendance où la population, même si probablement les prévisionnistes disent qu'elle est susceptible de plafonner, le plafond, on ne sait pas bien où il est. C'est 10-12 milliards peut-être, voire plus. Alors, il faut arrêter d'émettre du gaz à effet de serre, sinon on est dans la panade. Donc il faut décarboner. Et décarboner, c'est compliqué vu ce que je viens d'expliquer, l'augmentation de la population, l'augmentation des besoins, l'augmentation des consommations énergétiques. Comment on est en capacité d'assurer ces besoins, mais sans continuer à dégrader notre planète? Alors il y a une solution très 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 simple, qui est on arrête tout de suite de consommer des énergies. Ça, c'est une solution des énergies fossiles, s'entend. Mais enfin, comme c'est l'essentiel, vous avez vu, on peut. Mais si on fait ça, vous voyez bien toutes les conséquences qui vont évidemment en découler. Ce serait absolument catastrophique pour l'ensemble de l'humanité. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions. Il faut faire autrement.
il faut faire autrement. On ne l'a pas forcément en tête, hein, mais la principale source d'émissions de CO2 sur la planète, mais c'est d'abord la production d'électricité. Ben oui, parce que pour produire de l'électricité, dans le monde, on utilise essentiellement du charbon aujourd'hui. Et ça, ça crache évidemment beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est au niveau monde. Oui, donc le gros facteur principal, c'est la production d'électricité. Puis après, bah, vous avez toutes les activités humaines, hein, les logements, mais l'activité industrielle, les activités de transport. Puis évidemment, c'est très variable d'un pays à l'autre. Hein. Vous avez la situation chinoise, où effectivement l'essentiel de leur électricité est produite par du charbon. A contrario, vous voyez, vous avez la solution française, où évidemment on produit de l'électricité, beaucoup moins carbonée, l'électricité qu'on utilise en France, du fait notamment, pas que, mais de notre parc nucléaire, du parc hydraulique aussi, et puis bah, maintenant des renouvelables qui commencent à se développer. En revanche, on consomme beaucoup d'énergie carbonée pour les transports. Oui, c'est ce que je viens d'évoquer en fait. Les principales sources de gaz à effet de serre, c'est finalement à peu près toutes les activités humaines, la production d'énergie, les transports, l'industrie, le résidentiel, le tertiaire, l'agriculture. Alors c'est pas dessus, mais pour autant, on l'a pas forcément en tête, mais l'alimentation sur la problématique de transition énergétique, c'est un élément fondamental. Fondamental. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a plus de terres agricoles qui sont utilisées pour élever du bétail qu'on va consommer, que pour faire pousser des choses que les individus mangent. Donc, et ayez en tête aussi qu'en 1800, un Français moyen, il consommait 5 fois moins de viande que nous n'en consommons aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors aussi, oui, on aurait pu rajouter aussi tout ce qui était l'informatique. Les crypto-monnaies, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais le fameux Bitcoin dont on entend parler. Eh ben, le Bitcoin, c'est, en 2021, c'était 143 TWh, c'est-à-dire plus que des consommations de pays comme la Norvège ou les Pays-Bas. Et ça ne s'arrête pas, ça continue à être extrêmement consommateur d'énergie. Alors, on va zoomer un tout petit peu sur l'électricité pour voir quelle tête elle a dans le monde. Déjà, juste, c'est intéressant à se rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas d'électricité. Bon, c'est assez flagrant là. Tout ce qui est vert, c'est même un peu trompeur d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé plus précis, mais c'est entre 76 et 100% de la population qui sont alimentés en électricité. Voilà. Et là, c'est entre 0 et 25. Parce que vous avez vu, c'est le Niger quoi, qui vient d'avoir des blackouts absolument considérables. 210 millions d'habitants, ils n'ont plus d'électricité. Et ils ne savent pas trop comment ils vont faire pour être en capacité de continuer à réalimenter leur système qui est complètement, complètement déficient. Bon, l'Afrique est quand même le continent le plus pénalisé sur cette problématique de l'accès à l'électricité. Alors, bon, on l'a déjà vu, mais pour autant, c'est bien de le repréciser. Comment on produit l'électricité dans le monde ? Bah, essentiellement à partir de charbon et puis de gaz naturel. Ça, c'est la production mondiale, c'est essentiellement charbon et gaz naturel, donc des émissions de gaz à effet de serre. L'hydraulique a une part non négligeable. Après, vous avez effectivement les énergies renouvelables qui sont en train un petit peu de se développer, mais qui restent quand même en production de quantité assez faible, et un peu de nucléaire. Le nucléaire, oui, c'est ça, c'est 10% de la production d'électricité au niveau du monde. Alors, c'est très, très, très disparate d'un pays à l'autre, évidemment. Et on va zoomer, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'Europe. L'Europe, bah, le nucléaire, il pèse un peu plus lourd parce qu'il y a des pays qui produisent pas mal d'électricité nucléaire. On est, nous, l'exception, évidemment, puisqu'on produit 70% de notre électricité avec du nucléaire. Mais c'est une moyenne de 25% à peu près sur l'ensemble de la plaque européenne des 27. Du gaz, du charbon, et ça diminue pas, de l'éolien, de l'hydroélectricité. Voilà, vous avez toute la palette des solutions qui permettent de produire de l'électricité. Ça veut dire que même en production d'électricité, on a encore beaucoup d'opportunités de décarboner nos activités. Ou pour le dire autrement, aujourd'hui, 65% d'électricité qui est produite au niveau mondial, ça c'est sûr, elle est grise, c'est-à-dire qu'elle émet du gaz à effet de serre. Voilà la situation française, pour aller vite. Bah oui, le gros de la production française, c'est le nucléaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le programme nucléaire français, il n'a pas été décidé pour décarboner. À l'époque, on ne se préoccupait pas vraiment du sujet. Le sujet du nucléaire, du lancement du programme Messmer en France, c'était l'indépendance énergétique. Hein, c'était l'époque du choc pétrolier. On se rendait compte que on était un peu pieds et poings liés avec la fourniture d'hydrocarbures des pays du Golfe. Et donc, c'était une volonté d'indépendance énergétique qui a lancé le nucléaire en France. Et puis, on a découvert postérieurement que ça avait aussi la vertu d'être quasiment sans carbone. Et puis, aujourd'hui, avec l'actualité qu'on connaît, on voit bien que cette dimension indépendance énergétique, elle est en train de reprendre beaucoup du poil de la bête. Alors, et demain, qu'est-ce qu'on va faire? Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Plein de gens ont imaginé des scénarios sur notre futur. Comment il est possible? Alors, je vais commencer par celui que je préfère. Le scénario négawatt. Négawatt, c'est comment dirais-je, une association qui n'est pas spécifiquement pro-nucléaire, on va le dire comme ça. Mais il est très intéressant leur scénario. Hein, parce que en fait, c'est pas un scénario énergétique. C'est un scénario de société. Il est complètement sociétal, ce qu'ils imaginent. Et il a une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, ils imaginent le scénario négawatt repose sur le fait que demain, vous n'aurez plus ni fossiles comme énergie, ni nucléaire. Donc, il n'y a plus que des énergies dites renouvelables, l'hydroélectricité, le photovoltaïque et l'éolien. Ça veut dire qu'en France, à l'horizon 2050, on diminue les consommations d'énergie de 65%. Ça, c'est leur hypothèse. Et ils prennent une hypothèse aussi d'une croissance de la population d'à peu près 15%. Alors, les conséquences, c'est là qu'il faut rentrer un peu dans le détail. Les conséquences sociétales, pour le coup, sont assez intéressantes. On va arrêter de construire des maisons individuelles. Ah oui, parce que c'est énergivore. Hein. Donc, on habitera dans des collectifs, et si possible, des petits collectifs, avec une surface occupée par habitant qui sera moindre que celle qu'on a aujourd'hui. Il faut envisager un taux de rénovation de l'ensemble des logements de 780 000 logements par an. Il faut juste savoir qu'actuellement, on a du mal à faire 300 000. Et tous ces logements qui doivent être rénovés doivent être BBC, bâtiments basse consommation, les 780 000. Parce qu'aujourd'hui, on est juste incapable de faire. Et puis après, je pense que ça va vous parler aussi, parce que c'est aussi dans le scénario négawatt. On va baisser de 29% la quantité d'eau chaude consommée par personne. De 22% le cycle de lave-linge, de 18% le cycle de lave-vaisselle. On va baisser de moitié les congélateurs. On passera de 8 à 5 heures d'éclairage par jour dans les bâtiments tertiaires. On arrête les consoles de jeux. On baisse. Je pense que ça, ouais, ça parle là. Hein, quand on va raconter ça à certains. Oui, ben si, c'est prévu dans le scénario. On baisse d'un tiers le nombre d'écrans par foyer. On diminue par 3 le nombre d'ordinateurs. Voilà, donc c'est des conséquences. Mais il y a une cohérence. Hein. En faisant ça, on peut y arriver. On peut y arriver. Voilà, c'est un choix. C'est un choix de société. Après, au-delà de la boutade, vous avez des conséquences sur la capacité industrielle à produire, qui sont assez considérables. Et je suis de ceux qui pensent que, après tout, dans l'absolu, une certaine décroissance ou une sobriété énergétique un peu forte, pourquoi pas? Mais attention, parce que si on était pénalisé sur nos capacités de production industrielle, d'autres pays seraient tout à fait bien se positionner par rapport à ça, et nous deviendrions très vraisemblablement très dépendants, on l'est déjà beaucoup, et on le serait encore beaucoup plus. Autant dire que si demain on décidait nous d'être décroissants et que les Chinois décidaient de ne pas l'être, je ne sais pas quel est le devenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Un autre scénario, c'est celui de les scénarios de l'ADEME. Bon, il est intéressant aussi, ils sont intéressants aussi à étudier. Pour faire simple, il y a deux scénarios très, très repoussoirs, c'est la génération frugale, c'est celui que je viens de vous raconter à peu près, hein, pour faire simple. C'est, si on ne consomme plus rien, évidemment, c'est plus facile, il n'y a plus d'émissions de gaz à effet de serre. Puis le pari réparateur, là, c'est presque, on accélère encore, on va encore plus vite et encore plus loin, et on consomme encore plus d'énergie en espérant qu'on va trouver les solutions technologiques qui permettront d'éviter de tous les inconvénients qui sont générés par ces gaz à effet de serre. Voilà. L'ensemble de ces scénarios, je ne détaille pas, on pourra y revenir pour échanger, repose d'abord sur la sobriété, sur la captation du carbone, oui, parce que c'est aussi une solution, hein. On peut toujours émettre du carbone. Si vous le captez et que vous êtes en capacité de l'enfermer, entre guillemets, ou de le réutiliser, ce n'est pas trop grave, mais on a un peu de mal. Les régimes alimentaires, oui, ça, ils y sont tous, hein. Il faut qu'on se prépare à manger moins de viande. Essentiellement la viande, parce que c'est ça qui produit de l'élevage, produit de l'effet de serre. Si on mange des carottes, c'est moins grave. Non. Si. Ah. Non, un taux. Si, bien sûr que si. Mais le problème, c'est l'échelle alimentaire, quoi, quelque sorte, qui est problématique. C'est qu'il faut beaucoup plus de ressources et donc beaucoup plus d'énergie pour élever une vache et pour faire un steak que pour manger des carottes. Enfin, je fais un peu simple, hein, quand je dis ça. Là, on est déjà plus sur un scénario qui est tourné énergie. C'est les scénarios de RTE sur le futur énergétique en 2050. Ces scénarios, puisqu'ils en ont étudié plusieurs, ils sont compatibles avec la trajectoire nationale bas carbone telle qu'elle a été définie par les pouvoirs publics. Donc, il dit quoi ? Il dit aujourd'hui, toute énergie confondue, on consomme en France à peu près 1600 TWh, et qu'à l'horizon 2050, avec des efforts conjugués, on va plutôt essayer de se situer aux alentours de 930, c'est-à-dire qu'on va diminuer de 40% notre consommation énergétique. Ça, c'est le global. Tout type d'énergie confondu. Donc, ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle la fameuse démarche de sobriété énergétique. Arrêtons de gaspiller. On ne peut plus se permettre de gaspiller. Il faut être beaucoup plus raisonnable dans l'utilisation et essayer de faire en sorte que chaque kilowattheure utilisé, il ait une meilleure efficacité que ce qu'on utilisait auparavant. Et surtout qu'on n'en gaspille plus. Et dans le même temps, on va transformer la nature de cette énergie consommée, c'est-à-dire qu'on va consommer moins globalement d'énergie, mais on va consommer beaucoup plus d'électricité décarbonée. Il faut qu'on consomme plus d'électricité décarbonée. Donc ça veut dire, c'est souvent un débat d'ailleurs, les gens confondent souvent, et c'est pas toujours à dessein, on voit des gens qui parlent de consommation énergétique, puis d'autres qui parlent de consommation électrique et qui mélangent consommation électrique et consommation énergétique. Alors, donc, je redis ce que je viens de dire, on va consommer moins d'énergie et on va consommer plus d'électricité. C'est ça qui est en train de se faire, c'est ce qu'il faut faire à peu près partout, parce qu'aujourd'hui, des énergies décarbonées, c'est quand même pour l'essentiel de l'électricité. Donc, ça veut dire que la part de l'électricité qui aujourd'hui est à peu près 25% dans la consommation d'énergie en France, elle passerait à l'horizon 2050 à 55%. Et donc là, il y a plusieurs chemins pour y parvenir. Et c'est ce que RTE a essayé de déterminer. Donc ils ont établi 6 scénarios. Pour faire très très simple, il y a 3 scénarios qui sont dits M, c'est ceux qui sont là, c'est juste illisible là, mais c'est pas très très grave parce qu'on va pas rentrer dans le micro-détail. C'est des scénarios qui visent 100% de renouvelables à terme. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui vont progressivement, on va augmenter la consommation d'électricité, la production d'électricité, mais on va la produire qu'avec du renouvelable, plus de nucléaire à terme sur ces scénarios. Et puis 3 scénarios dits N, où là, c'est une combinaison de renouvelables et d'électricité nucléaire pour produire de l'électricité. Et RTE conclut à l'issue de ses travaux qu'il est juste indispensable, de toute façon, dans tous les cas, de développer des énergies renouvelables, et je vais y revenir. Alors, on ne le voit pas bien, mais dans le scénario le plus qui se débarrasse le plus rapidement du nucléaire, c'est un peu flou là, pour le coup. Ça, c'est l'éolien terrestre. L'éolien terrestre, il faut le multiplier par, j'arrive plus à lire, il faut le multiplier par 4 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et il faut multiplier le solaire par 21. Vous voyez ? Dans le scénario qui conserve 50% de production d'électricité nucléaire, il faut augmenter le solaire, il faut multiplier le solaire par 7, pas par 21, mais par 7, et il faut augmenter l'éolien terrestre par 2,5. Donc dans tous les scénarios, il est prévu d'augmenter significativement la part de production d'électricité renouvelable. Le dernier scénario étant celui, effectivement, qui prévoit 50% de nucléaire et 50% de renouvelable, à condition, évidemment, d'avoir un programme de relance du nucléaire, et je vais y venir un peu plus loin. Oui. Oui. Bah, c'est pour l'essentiel des panneaux solaires. Vous avez un... Oui, pour l'essentiel, c'est des panneaux solaires. Alors, vous pouvez les mettre soit sur des toits. Si, c'est d'énergie renouvelable. Les panneaux eux-mêmes ne sont pas renouvelables. Non, on est tout à fait d'accord. Mais attendez. Alors, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Ça dure un panneau, aujourd'hui, ça dure 20-25 ans. Bon, même si on améliore aussi la technologie. Alors, un principe de départ, il n'y a pas d'énergie idéale. S'il y en avait, ben, ce serait génial, on aurait sans doute trouvé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie idéale. L'avantage du solaire, il a plein d'inconvénients. L'avantage du solaire, c'est qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre. Je reste sur mon principe de départ qui est la principale lutte, c'est absolument de décarboner. Il faut décarboner. Donc le solaire fait partie des solutions qui peuvent aider à décarboner. Ça ne veut pas dire que ça ne génère pas d'inconvénients, ça en génère plein. Les pales des éoliennes, c'est pareil, hein. C'est juste pas terrible. Et les plots de béton, quand vous installez les éoliennes, c'est pas terrible. Et puis dans le paysage, c'est pas génial non plus. Voilà. Donc la solution idéale, il n'y en a pas. La solution pour s'en sortir le moins mal possible, c'est de combiner tous les éléments possibles. C'est de combiner tous les éléments décarbonés de production d'énergie. C'est ça la posture, telle que développée. Mais on y revient si vous voulez. Hein. Je vais développer un tout petit peu. Et puis après, je me dépêche un peu pour justement nous laisser la possibilité d'échanger. Alors EDF aussi a fait un exercice. En fait, on a étudié trois scénarios. Hein. 100% ENR. 30% de nucléaire, 70% d'ENR, puis 50% de nucléaire, 50% d'ENR. On est resté sur la programmation pluriannuelle des énergies qui, de toute façon, prévoyait qu'à terme, la part du nucléaire dans la production d'électricité en France ne dépasserait pas 50%. Donc, la première conclusion, c'est celle-là. 100% ENR, ça n'est pas réaliste. Ça n'est absolument pas réaliste parce que, de toute façon, déjà, pour commencer, vous allez dépasser le potentiel. C'est-à-dire que vous êtes quasiment obligé de dépasser le potentiel pour le solaire. Vous êtes obligé de saturer le potentiel pour l'éolien. Et pour l'éolien offshore, ça serait encore envisageable à condition de le développer à marche forcée. Parce qu'il faut juste avoir ça en tête. Aujourd'hui, on développe du photovoltaïque, on développe de l'éolien. Dans les 10 ans qui viennent de s'écouler, là, on est à peu près sur un rythme de 2 à 3 gigawatts de puissance développée par an sur l'ensemble du territoire national. Pour faire un scénario 100% ENR à l'horizon 2050, il faut passer à un rythme de 13 gigawatts par an de développement. C'est-à-dire un rythme que aucun pays n'a jamais réussi à tenir. Aucun. Donc, et puis derrière, vous avez tout ce qui est le matériel dont on a besoin, les professionnels dont on aurait besoin pour le faire, etc. Donc ne serait-ce que ce rythme de développement pour parvenir aux 55% d'électricité que j'évoquais tout à l'heure, produit complètement par du renouvelable, eh ben, ça n'est pas possible. Ça, c'est le premier, comment dirais-je, impossibilité. Le deuxième, les fameux besoins de flexibilité. Oui, parce que si demain, vous mettez tout un tas d'éoliennes offshore tout autour de nos côtes, là, et que ça produit énormément d'électricité, ben, cette électricité-là, on ne va pas l'utiliser sur place, il va falloir la transporter. Ça veut dire qu'il faut changer complètement les réseaux dont on dispose. Non, je suis passé là, sur les réseaux. Et puis en Suisse, vous avez le fameux problème de l'intermittence, qui est que les jours de nuit sans vent, vous n'avez ni éolien ni photovoltaïque, quoi. Donc ça veut dire aussi que les scénarios qui ont été développés sur des logiques de 100% renouvelables, ce sont des scénarios qui prennent des hypothèses aussi de capacité de stockage très importante d'électricité sur des périodes assez longues. Technologie qu'on ne possède pas aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un gros risque. Le fameux power to risk to power, là, c'est, y a plein de gens qui se disent... Alors, parce qu'on a trouvé une nouvelle énergie. Ça, c'est juste génial, c'est l'hydrogène. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai discuté avec un responsable politique que je ne dénoncerai pas. Et je dis, mais monsieur, l'hydrogène, c'est de l'électricité. Il dit, bah, pourquoi vous me dites ça? L'hydrogène, c'est de l'hydrogène. Bah, sauf que l'hydrogène, il faut le produire. Alors, vous pouvez le produire par vapeur au formage, hein, en craquant des molécules de méthane. Et là, comme ça, vous mettez 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Donc, c'est juste une catastrophe. C'est comme ça que l'ensemble de l'hydrogène, aujourd'hui, planétaire, est à peu près produit. 95% est produit comme ça. Et puis, bah, autrement, vous pouvez le faire avec l'électrolyse de l'eau. Vous savez, l'anode, la cathode, là, puis vous faites... Et là, oui, vous produisez de l'hydrogène. Mais il faut de l'électricité. Il faut beaucoup d'électricité pour produire un peu d'hydrogène. Alors là, la logique, c'est de dire, j'utilise de l'électricité qui produit l'hydrogène, je stocke l'hydrogène, et avec l'hydrogène, je pourrais refaire de l'électricité. Dans l'absolu, ça marche. Ça marche. Mais vous avez une loi de rendement qui est assez désastreuse, quoi. C'est-à-dire que quand vous, à la fin, vous aurez 20% de l'électricité produite par rapport à, à la 100% d'électricité que vous aurez consommée pour produire les 20% d'électricité résiduelle. Bon, pour autant, ça peut avoir de l'avantage parce que justement, ça déplace un peu et ça résout un peu la problématique de l'intermittence. Mais évidemment, ça ne résout pas tout. Donc, mettre en place un scénario 100% renouvelable, vu de la grande maison que je représente, c'est juste utopique. Donc bah, si on veut décarboner, il va falloir faire tout. Il va falloir faire un peu, continuer. Non, pas un peu, continuer à développer des énergies renouvelables. Parce que vous voyez que sur le scénario 50% de nucléaire, 50% de renouvelable, on passe à un rythme de développement du renouvelable de 4 gigawatts par an. Je vous évoquais tout à l'heure, on était plutôt aux alentours de 2 et 3. Donc une accélération du développement. Et puis, pour décarboner, il va nous falloir aussi du nucléaire. À une proportion et selon des modalités qui restent à définir. Ou pour dire les choses autrement, s'il y a une conviction qui est vraiment sans regret, développer du nucléaire, ou plutôt ne pas faire de nucléaire, ça serait diminuer très considérablement nos chances de contrecarrer le réchauffement climatique. En France, mais sur l'ensemble des pays de la planète. Ou, on peut le dire encore autrement, ne pas recourir au nucléaire, ben c'est en fait, ça nous fait courir beaucoup, beaucoup plus de risques que d'y recourir. Mais, les décisions politiques, elles sont parfois volatiles, enfin souvent volatiles. C'est bien un problème, c'est toujours le problème des industriels, si vous voulez. C'est que le temps politique, c'est pas le temps industriel. Pourquoi voulez-vous qu'un politique prenne aujourd'hui une décision qui peut être considérée comme impopulaire ? Tout en sachant que les résultats que va produire cette décision ne seront visibles que postérieurement à son mandat. Il faut être un peu courageux pour faire ça. Bon, voilà, c'est pas si évident que ça. Mais c'est pénalisant, évidemment, pour les industriels. Alors, Belfort, le discours du 10 février 2022, dans le cadre du plan France Relance, le président Macron, je parle pour l'instant du président Macron, je parlerai du candidat Macron après, il a annoncé son programme sur le destin énergétique de la France. Donc baisser en 30 ans de 40% nos consommations d'énergie. Vous vous rappelez, c'était la petite flèche que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça reste un programme, le programme énergétique de la France. On baisse, on va développer une filière bas carbone, dont acte, et on va produire 60% d'électricité en plus que la production actuelle. Donc c'est le fameux camembert que je montrais tout à l'heure. Là, on passe de 25 à 55%. Et pour faire ça, on va faire les deux. On va développer des ENR, doublement de la production électrique issue des énergies renouvelables, accélération dans le solaire, multiplication par 10 de la puissance installée, l'éolien en mer, pour l'instant, bah, c'est pas compliqué, on n'en a pas encore. Il y a un parc au large de Saint-Nazaire qui va bientôt fonctionner, mais il n'est pas encore en service. Donc l'idée, c'est de faire quand même là, derrière ça, c'est une cinquantaine de parcs. Donc c'est vraiment considérable. L'éolien terrestre, ça ralentit. C'est-à-dire qu'on n'est plus qu'à un doublement à l'horizon 2050, c'est-à-dire c'est un rythme moins important que ce qui avait été initialement prévu, bah parce qu'on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. On pourrait y revenir tout à l'heure, mais quand vous avez, au-delà de la réticence que peuvent avoir les riverains, quand vous avez enlevé les zones aériennes, quand vous avez enlevé les zones Natura 2000, quand vous avez enlevé les zones à préserver, il en reste pas les zones de radar aussi, il n'en reste pas tant que ça des possibilités de faire, quoi. En fait, dans l'idéal, il faudrait mettre les éoliennes dans des trous pour qu'on ne les voit pas. Mais là, pour le coup, ça ne marche pas bien. Ce n'est pas terrible. Voilà. Et puis, oui, c'est ça. S'il n'y a pas de vent, c'est embêtant. C'est embêtant. Déjà, même quand il y a du vent, ça marche pas tout le temps. Alors, quand il y en a trop, ça s'arrête. C'est pareil. Quand je suis interpellé, on me dit, mais attendez, de toute façon, vos centrales nucléaires, elles sont aussi intermittentes, parce que de plus en plus, on va avoir le réchauffement climatique, machin, il n'y aura plus d'eau. Oui, tout ça est vrai, on pourra y revenir. Mais quand vous avez un anticyclone, vous n'avez pas de vent. Et puis vous pouvez avoir des températures élevées. Les panneaux solaires, si vous dépassez les 25 degrés de climat extérieur, si vous voulez, le rendement, il chute. Hein. Donc on peut se trouver dans des situations où il n'y a pas de vent, pas d'eau, pas de soleil, tout ce qu'on veut, quoi. Bon, pour autant, maintien des réacteurs existants. C'est tout bête, mais en une phrase, le président Macron, il a tué la précédente programmation pluriannuelle des énergies qui avait annoncé la fermeture, après Fessenheim, de 12 réacteurs nucléaires jusqu'à l'horizon 2035. Donc en disant non, on les arrête plus, on continue à les faire fonctionner au-delà éventuellement de la cinquième décennale, à condition évidemment que les conditions de sécurité soient assurées, bien évidemment, mais on part dans une logique de... Alors ça me permet aussi de dire, parce que c'est souvent quelque chose, on est interpellé sur le sujet, il y a des gens qui vous disent, mais attendez, vos centrales nucléaires, elles ont été construites pour durer 40 ans. Donc au bout de 40 ans, elles sont foutues, quoi. S'en foutu. C'est assez malin comme argument. 40 ans, c'est quoi ? 40 ans, c'est l'hypothèse comptable qui a été prise pour calculer l'amortissement de l'installation. C'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, vous avez amorti votre installation. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 40 ans, elle est fichue. Elle est juste pas fichue. Hein ? Voilà. Donc, elle a de capacité à continuer. Tant que l'appareil est en capacité de fonctionner avec un bon niveau de sûreté, il n'y a aucune raison de s'en priver. Les Américains, ils doivent avoir 96 réacteurs, si je ne me trompe. Il y en a presque 80 qui sont autorisés à être exploités plus de 60 ans. Et je pense même qu'il y en a quelques-unes qui ont même passé la 80. Enfin, ils ont une autorisation pour les exploiter jusqu'à 80. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 déjà. Donc ça veut dire que, techniquement, ça n'est évidemment. On n'a pas construit des centrales à obsolescence programmée, quoi, avec l'idée qu'au bout de 40 ans, c'était fichu, quoi. Mais c'est souvent un argument qui revient pour discréditer un peu cette affaire. Qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à ça ? Oui, l'annonce de construction de 6 nouveaux EPR, ou les EPR 2. Alors l'EPR, ça aussi, c'est un sujet amusant, intéressant, parce que les opposants nous disent tout le temps, mais c'est un fiasco absolument abominable, votre affaire de l'EPR de Flamanville. Là, on a explosé les coûts, on a explosé les délais. Alors, un, c'est vrai, on a explosé les coûts, on a explosé les délais. C'est un prototype, déjà pour commencer. Et puis, si vous avez un petit peu de temps, moi je vous convie à lire le rapport Folz. Monsieur Folz, c'était l'ancien PDG de PSA et il a été missionné pour justement analyser les causes des retards et des écarts sur le chantier de Flamanville. C'est un rapport, enfin, je ne suis pas du tout technicien, j'ai oublié de vous le dire, hein, je fais partie des rares dirigeants d'EDF qui ne sont même pas ingénieurs, donc je ne connais absolument pas la technique, mais moi j'ai lu le rapport Folz et j'ai tout compris. Enfin, je pense. Oui, on le trouve facilement. Hein. Et il fait 34 pages. Bon. C'est pas aussi passionnant qu'un bon polar. Mais c'est quand même assez facile à lire. Et il dit quoi, le rapport Folz ? Il dit des choses assez simples, frappées au coin du bon sens. Il dit les problèmes, d'abord, ça a été aussi des problèmes d'organisation, de mise en œuvre, de pilotage de chantier. Voilà, il y a eu des choses qui étaient juste pas idéales. La première estimation financière était complètement fantaisiste. Et les fameux 3 milliards, ça tenait pas 2 minutes la route. Voilà, donc bon, premier point. Le deuxième point, c'était, je vous le fais simple, vous faites un cahier des charges pour avoir une pièce. Vous l'imaginez dans votre coin tranquillement, puis vous le donnez au gars qui va la produire, et puis il revient, puis il vous donne la pièce, puis vous dites, mais c'est pas exactement ce que je vous ai demandé. Et le gars, il vous dit, oui, mais c'est ce que je sais faire. On a fonctionné comme ça. plutôt que d'associer en amont tous les sous-traitants pour définir en commun le cahier des charges de tout un tas de matériel dont on pouvait avoir besoin. Donc une meilleure coordination entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, c'est un aspect qui peut vraiment aider à être plus efficace. Et puis le troisième point, il est vraiment classique, c'est que le dernier réacteur nucléaire qu'on a mis en service en France, c'est Civaux et ça date de 2002. Donc entre 2002 et aujourd'hui, on n'a pas mis en service un seul réacteur. Ça veut dire que les compétences, on les a perdues. Perdues. Bah, les bons, ils sont partis faire autre chose. Hein. C'est juste évident. Pour certains d'entre eux, oui, c'est clair aussi. Oui, c'est sûr. Voilà, donc il fallait reconstruire. Et du coup, fort de tous ces enseignements-là, l'entreprise, et pas seulement l'entreprise, d'ailleurs toute la filière nucléaire française, s'est mise d'arrache-pied sur le chantier pour reconstruire tout ça. Donc c'est le plan Excel qui a été fait pour l'excellence. On a ouvert une université des métiers du nucléaire pour coordonner les formations dont on a besoin, etc. Tout ça est en train de se redynamiser. Ça a permis, justement, de faire une proposition en mai de 2021. À la demande du gouvernement d'ailleurs, l'entreprise EDF a remis cette proposition de faire 6 EPR2 qui manifestement est une proposition qui a été retenue. Et on va au-delà puisque le président Macron à Belfort a demandé à ce que nous étudions la possibilité d'en faire 8 de plus. Ce qui correspond d'ailleurs au tout dernier scénario de RTE que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est l'idée d'avoir à peu près 14 EPR à l'horizon 2050. Et puis il y a les fameux SMR, les petits réacteurs modulables ou modulaires, comme on veut, que certains voient comme la panacée. On pourrait y revenir. Aujourd'hui, il y a, de par le monde, à peu près 70 projets de petits réacteurs modulaires. L'idée, c'est de faire plus petit, quoi. Il y a plein de gens qui s'imaginent que c'est plus petit, ça va être plus facile. Pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Mais pour autant, des petits réacteurs, on sait en faire. Hein. Il y a fort longtemps qu'on en fait. Il y en a dans les sous-marins, il y en a dans les porte-avions, par exemple. Voilà. Donc, bon. on n'est pas les plus en avance. Je pense que le projet New Scale des Américains va sortir son prototype bien avant nous. Le projet en France, c'est Newward, comme Nuclear Forward, le nucléaire en avant. Voilà. Mais il y a un vrai, vrai potentiel fantastique. Parce que l'avantage, c'est pas tant pour la France. Nous, on n'en a pas spécialement besoin. C'est plus facile de faire des EPR. Parce que c'est plus gros, du coup il y a un effet, il y a une économie d'échelle. Mais il y a plein de pays qui n'ont pas forcément les sources froides qui sont pertinentes pour faire des gros centrales nucléaires, qui n'ont pas forcément les infrastructures de réseau qui permettent d'évacuer la production, donc pour lequel ça peut faire sens. Et puis, je reviens tout le temps à mon mantra qui est « il faut décarboner ». Et aujourd'hui, de par la planète, il y a 3500 centrales de production d'électricité à charbon, dont les puissances sont à peu près équivalentes à ce qu'est un SMR. Donc, vous fermez ces centrales, puis vous mettez des SMR à la place. Le climat y gagnera beaucoup. Donc, il y a un vrai marché. Alors, d'aucuns nous disent, oui, mais de toute façon, les Américains vont tout rafler. En fait, il y a qui ? Il y a les Américains, il y a les Russes. Vu la situation actuelle, je pense que ça ne va pas être si simple que ça. Et il y a les Coréens qui sont en train de monter assez largement plus. Les Chinois, bien sûr, j'ai oublié les Chinois. Mais il en restera assez pour qu'on soit en capacité. De toute façon, notre industrie n'est pas telle qu'on soit en capacité. Zut. Non, c'est parce que je suis trop bavard, c'est pour ça. Vu tout ce qu'on a à faire, si on est capable de prendre une partie du marché international, ce sera déjà très 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 bien. Après-demain, on va continuer, hein. Après-demain, il faut continuer à faire des économies d'énergie. J'ai juste pris un exemple parce qu'il est assez emblématique. Bon, on n'a pas forcément en tête, mais la communauté européenne a lancé un appel à projet européen sur des smart cities, des villes intelligentes. La ville de Dijon a postulé à cet appel d'offres en 2019. Ça n'a pas marché. Elle a recommencé en 2020. Et on l'a gagné, je dis on, parce que EDF a été très partie prenante de cette affaire. Il y avait 15 dossiers qui avaient été déposés par des villes sur l'ensemble de l'Europe. Il y a un seul qui a été retenu par la Commission européenne, c'est celui-là. Donc en fait, la ville de Dijon est alliée avec une ville de Finlande qui s'appelle Turku. Et il s'agit de faire quoi ? Il s'agit d'essayer de faire émerger des quartiers dits à énergie positive, c'est-à-dire des quartiers qui vont produire plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Alors, ça passe par quoi? Ben, ça passe par toute une dimension de rénovation, pour faire en sorte que justement vous gaspillez le moins possible d'énergie, et puis de production locale, vous voyez, les ombrières de parking, des véhicules en V2G. Ah oui, alors ça c'est une voiture électrique. Actuellement, traditionnellement, vous la branchez pour qu'elle se charge, quoi, si vous voulez. Demain, on imagine des systèmes où vous la brancherez, on pourra la charger, mais on pourra aussi aller chercher de l'électricité dans la voiture. Vous avez juste programmé que vous aviez besoin du plein de votre voiture à 7h demain matin, ça c'est bon, mais dans l'intervalle, je peux avoir besoin d'aller prélever un peu d'électricité dans votre voiture. Ça paraît anecdotique dit comme ça, mais quand vous avez des millions de voitures qui sont branchées, vous avez un potentiel de stockage et de disponibilité d'électricité qui est assez important. C'est ce qu'on appelle le V2G. Et ça, ça va être expérimenté aussi sur le site. Voilà, donc il va y avoir tout un tas d'expérimentations là qui vont faire que demain, à terme, quand le projet sera complètement finalisé, il est en cours d'installation, hein, on aura baissé de 40% les consommations d'énergie, on aura une production à peu près équivalente, et puis on aura gagné 75% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation existante. Voilà, c'est vraiment un modèle relativement vertueux, qui a aussi, et c'était un des objets de la Commission européenne, la vertu de la réplicabilité. Parce que construire un quartier neuf à énergie positive, c'est relativement facile. Partir d'un quartier existant, un quartier populaire existant, et puis le passer à énergie positive, c'est beaucoup plus compliqué. Or, des quartiers de ce type, il y en a dans toutes les villes de la France et de la Navarre, et largement autour de la planète. Donc ça a l'effet vertueux, puisque dans cette opération-là, l'idée c'est que les innovations qui sont faites à Turku bénéficient à Dijon, celles de Dijon bénéficient à Turku et à toutes les autres villes partenaires qui sont associées à ce projet, dont la ville de Bruxelles. 1er juin, d'ailleurs, le vice-président de la Commission européenne va venir voir le chantier. Alors, c'était un exemple. Autre, oui, il faut développer des énergies renouvelables. Donc j'ai pris le projet, le parc éolien de Saint-Nazaire. Voilà, on va développer des éoliennes plus puissante que ce qu'on installe sur Terre généralement, parce que là, l'espace est un peu plus important. L'avantage aussi de l'éolien offshore, c'est que ça tourne un peu plus, c'est plus régulier. C'est plus régulier pour la production, et puis on peut installer des plus grosses machines. Alors celles-là, elles seront plantées. Hein. Celles du parc de Saint-Nazaire, elles seront plantées sur le fond de l'eau, mais on va développer aussi des éoliennes flottantes, sur une bouée, quoi. Alors, il faut quand même que ce soit un peu fixé, mais ça bouge pas. J'ai visité le chantier de Fosse parce que justement ils sont en train de le préparer là. C'est très impressionnant. La première question qu'on pose, c'est de dire oui, mais si c'est flottant là, ça veut dire que quand il va y avoir du vent, ça va. Eh ben oui, mais non. Mais justement, ça fait pas ça. Ça fait ça. C'est-à-dire que le système est établi pour que c'est la base qui bouge et le point fixe, c'est la centrale. Alors, elle bougera un peu, sans doute, mais pas au point que ça empêchera la production. Voilà, donc il faut innover. Et puis l'hydrogène, là aussi, on est un peu pionnier dans la région. Ça, c'est la station hydrogène d'Auxerre. Parce que c'est aussi une solution décarbonée. Vous utilisez de l'électricité décarbonée pour produire de l'hydrogène décarboné que vous utilisez dans les bus, dans les bennes à ordures ménagères, par exemple, dans des flottes captives d'industriels parce qu'il y a un petit rayonnement, ça peut faire sens. Ça peut être intéressant à expérimenter. Et encore une fois, il faut travailler ces solutions, les expérimenter pour voir qu'elles sont en capacité de faire et de produire. L'avantage, au moins sur la ville d'Auxerre, c'est que les bus qui consommaient du diesel, désormais, ils consomment de l'hydrogène qui est décarboné. Donc, bilan carbone positif. Et puis, l'EPR2. EPR2 parce que on a tiré tous les enseignements de ce qu'on a appris avec la construction des EPR. Alors des EPR, en France, ils marchent tout pas encore. Flamanville, ça marche pas encore. Normalement, 2023. Mais on sait que ça marche puisqu'il y en a deux qui fonctionnent en Chine, les deux de Taishan. Et puis tout récemment, nos collègues finlandais d'Olkiluoto Auto ont mis en service le leur. Voilà, ça marche. Hinkley Point est bien avancé. Sizewell, ce sera aussi le modèle d'EPR. Mais pour autant, on a maintenant, tirant l'enseignement de ce qu'on avait appris avec le précédent, on va pouvoir faire des EPR2. Ils sont plus simples, quoi, en fait, pour faire simple. C'est juste deux éléments, mais je les trouve assez parlants. Dans la nomenclature, dans le design de l'EPR, il y avait 3500 robinets, si je ne me trompe. Dans l'EPR2, aujourd'hui, ils prévoient d'en avoir 350. On divise par 10, quoi. Bah oui, parce que en standardisant, on a plus de chances de faire des choses simples, quoi. Et des fois, la simplicité, c'est pas négligeable. Et puis surtout, on va les construire par paire. Pourquoi ça a mieux marché en Chine qu'à Flamanville? Parce qu'à Flamanville, on n'en a fait qu'un. Un, en plus, avec un design qui était au départ, on l'a oublié, franco-allemand. Et les Allemands, ils avaient des exigences que nous, on n'avait pas. Ils ont abandonné le chantier en route, mais ils ont laissé les exigences, quoi, si vous voulez. Donc, on a vraiment cumulé tous les trucs qu'il ne fallait pas. Bon, c'est souvent ça quand on expérimente. Mais aujourd'hui, fort de toute cette expérience, on est en capacité de le faire pour renouveler le parc français. Parce que, oui, je disais tout à l'heure, les centrales, on peut les prolonger, mais de toute façon, on sait bien qu'on ne les prolongera pas indéfiniment. Et comme elles ont toutes été construites à peu près dans la même époque, eh ben, on a un effet falaise, quoi. Il y a un moment, ça va s'arrêter, et donc si on ne se dépêche pas, on a déjà beaucoup trop tardé, mais si on ne se dépêche pas à en construire d'autres, on risque de se retrouver dans une situation un peu complexe. Donc on va faire des EPR. Et puis eh ben, les SMR que j'évoquais tout à l'heure, voilà, c'est l'idée de. C'est une petite centrale. Donc le projet français qui s'appelle New World, c'est de faire en fait une petite centrale avec deux réacteurs qui font tous les deux 170 MW. C'est 1600 et quelques, hein, un EPR, donc c'est quasiment un dixième en quelque sorte. Voilà, donc quelque chose de beaucoup plus simple, un peu sur étagère en quelque sorte, c'est-à-dire que tout est construit de façon industrielle et puis ensuite assemblé sur site. L'idée, voilà, étant d'être en capacité de faire ça plus facilement en quelque sorte, en respectant des contraintes internationales, parce que l'idée c'est bien de l'exporter demain, et donc il va falloir en faire au moins en France pour qu'on voit comment ça marche. Donc voilà, c'est l'idée de faire un premier béton en 2030, parce qu'on n'est pas encore, on en est juste là aux spécifications un peu générales et on n'est pas allé encore jusqu'au bout de la démarche, mais ça prend bonne voie. Et puis comment dirais-je, le projet est évidemment suivi avec beaucoup d'attention par les pouvoirs publics qui, dans le cadre de France Relance, financent beaucoup de travaux de recherche par rapport à ça. Puis je crois que j'ai fini. Ah non, bah non, bah non, 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 je suis toujours après-demain. Bah oui, après-demain, bah. On a abandonné le projet Astrid, qui était un réacteur de quatrième génération avec du sel fondu. Mais on a toujours ITER. On a toujours ITER. ITER, c'est quoi? C'est l'idée de faire un réacteur à fusion nucléaire. Vous voyez, c'est l'inverse, quoi. On ne fait pas de la fission nucléaire, on ne casse pas le noyau. On en rapproche, on les fusionne. Ça dégage une énergie considérable et surtout, ça résout tout un tas de problèmes du type les déchets et autres joyeusetés. Bon, mais ce n'est pas encore aujourd'hui opérationnel. Il ne faut surtout pas se priver de continuer la recherche sur ce sujet, parce que si demain on y arrive, on aura résolu une grosse, grosse part de tous les problèmes que j'ai évoqués. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi croire dans la science et à la capacité à imaginer des solutions qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est cas d'arrache. Hein. Ouais. Donc, il faut continuer à travailler ça, parce que quand on aura ça, on aura franchi une étape considérable pour nous. Enfin, quand je dis nous, là, il y a 31 pays qui sont associés. Hein. Et puis, surtout pour l'humanité, encore une fois, il faut décarboner. J'ai fini.
Chalon, vous tapez sur Google, vous écoutez, là en voyage et vous verrez coup de fil. Vous me fournir le programme quand même. Lire le programme, et puis surtout, si ça vous intéresse, eh bien, vous nous téléphonez. À chaque fois, il y a un téléphone, vous passez un mail, et vous dites c'est susceptible de nous intéresser, vous pouvez demander des renseignements, il y a quelqu'un qui vous l'a. Enfin, il faut qu'on ait bouclé les inscriptions, disons, à la mi-avril, quoi. Voilà. Il y a un bus, ça part de Chalon. Et on loge au château de Cadarache, c'est-à-dire la maison d'hôte du monsieur. Vous avez compris que je veux faire
le. Oui, oui, oui.
Questions, remarques, des points qu'on n'a pas abordés. Allez, honneur aux dames. On y travaille. Enfin, d'ailleurs, oui, il va s'installer une usine de recyclage de panneaux photovoltaïques dans le nord de notre région là, bientôt. Mais enfin, ça fait partie du projet. Aujourd'hui, c'est comme tout. Quand vous démarrez, vous commencez un peu dans l'enthousiasme et puis on ne se pose pas tout de suite ce type de questions. Mais il faut, oui, être en capacité de les recycler parce qu'en plus, il y a des métaux rares qui sont utilisés pour toutes ces choses-là. Donc, il y a une filière à développer. Il faut déjà aussi commencer à reconstruire une filière qui les produirait nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, les panneaux solaires qu'on utilise en France, ils viennent exclusivement de Chine. Ouais. Donc c'est pas idéal. Encore une fois, c'est pas idéal. Hein. Pareil pour les pales des éoliennes. On ne sait pas bien les recycler aujourd'hui, donc il va falloir imaginer ces filières de recyclage. C'est, encore une fois, il n'y a pas de solution idéale. Le vent, lui, il est renouvelable. Hein. Le vent et le soleil, ça, c'est renouvelable. Mais la façon dont on l'utilise avec ces matériaux, c'est pas totalement idéal. Voilà. Et le bilan carbone, il n'est pas nul. C'est-à-dire que bon, si on fait le bilan carbone de la production d'électricité éolienne, il y a un peu de CO2. Si on fait le bilan carbone de la production photovoltaïque, il y a aussi un peu de CO2. Mais honnêtement, ça en produit moins qu'une centrale au charbon, quoi. Voilà, c'est juste ça. Après, il en faut. Il ne faut pas se priver parce que là, j'ai dit 6 EPR puis 8 à venir, mais il va falloir être en capacité de les faire. Hein. Ce n'est pas si simple que ça. Il va falloir marcher à marche forcée. Et puis dans tous les pays, c'est le cas. Il faut absolument, encore une fois, il faut décarboner vite et massivement. Donc surtout, il ne faut se refuser aucune des solutions qui nous aident à le faire, quoi. Il y a aujourd'hui, alors, avec les fameuses COP, là, il y a, alors, pas tous les pays, mais il y en a au moins 100, je ne voudrais plus dire de bêtises, au moins 130 qui ont pris l'engagement de décarboner leur énergie à l'horizon 2050. La Chine, elle a dit 2060. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ça, on est d'accord, mais déjà, il y a une volonté. Et souvent, quand il y a une volonté, il y a un bout de chemin. Les Chinois, ils veulent développer du nucléaire. Ils veulent passer. Aujourd'hui, la production nucléaire d'électricité en Chine, c'est 5% de la production d'électricité. Ils veulent passer à 15. Mais pour passer à 15, il faut qu'ils construisent un parc trois fois plus important que le nôtre. Hein. Voilà. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot.
Les Chinois sont volontaires parce qu'ils ont même des problèmes de production.
Mais bien sûr. Ils le savent, mais d'un autre côté, ils ont aussi à gérer les besoins de leur population, etc. etc. quoi. Voilà, c'est... Ben oui. 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 Mais. C'est ça. Mais après, faut pas qu'on se positionne aussi comme des donneurs de leçons, quoi. On ne peut pas aller trouver des pays émergents en leur disant attendez, il ne faut absolument pas que vous fassiez ça. On dit, attendez, c'est vous avez bâti votre propre prospérité là-dessus. Donc en fait, il faut les aider à assurer leur développement, mais avec des solutions qui soient moins polluantes que celles qu'on a, nous, utilisées, quoi. Bah c'est pareil. C'est
pas...
Non, bah non, parce que il y a bah parce que bah oui.
Tous les pas arrêtés dans le monde. Les Japonais ont fait beaucoup de choses.
Le propos générique, c'est que ce qui est terrible, c'est quand on commence à casser les machines à tisser, quoi. C'est-à-dire que au prétexte que ça pourrait être dangereux, on veut surtout pas faire d'expérimentation, on veut pas y mettre de moyens, on veut pas. C'est de l'obscurantisme. C'est de l'obscurantisme.
Mettre dans la Constitution la phrase bien connue.
Voilà. Il faut. Parce qu'effectivement, les solutions qu'on va utiliser demain, si on ne les imagine pas aujourd'hui, bah, on ne les aura pas. C'est aussi simple que ça.
Et tout ça, à quel prix ?
Ah !
Moi, je me rappelle que
oui. Oui. Ah oui. Ah, oh, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Beau sujet.
Depuis cette date-là, le prix de l'électricité
n'a jamais
cessé d'augmenter. Oui. Et même de plus en plus vite.
Oui. 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 Je pense pas par malignité, par incompétence. Par incompétence. Le principe, c'est la loi classique du marché libéral qui est la régulation se fait par l'offre et la demande. Hein, s'il y a plus d'offres que de demandes, les prix vont baisser. S'il y a plus de demandes que d'offres, ça va faire inciter les gens à produire et donc ça marche. Ça marche pour tout un tas de produits, hein, mais ça ne marche pas pour l'électricité. Ça ne marche pas parce que la régulation, elle ne se fait pas par la capacité. Elle se fait par le besoin au moment où on en a. Vous ne stockez pas. Donc vous êtes obligé de produire systématiquement autant d'électricité que... La demande se fait. Et donc, ça fait énormément fluctuer les prix, évidemment. Parce que, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui détermine le prix de l'électricité, aujourd'hui, sur la plaque européenne? Je ne parle pas du prix du tarif pour un particulier, mais les prix sur les marchés de gros, qu'est-ce qui détermine? C'est la dernière puissance appelée. C'est-à-dire que, comment vous faites? Vous avez un besoin de X électricité. Ben, vous allez commencer par utiliser les moyens que vous... dont vous ne pouvez pas faire autrement, quoi. C'est le vent quand il y en a, l'hydraulique au fil de l'eau, etc., etc. Puis après, vous allez commencer à mettre progressivement en service les unités qui vous coûtent le moins cher, et notamment le nucléaire. Bon, on commence avec le nucléaire. Et puis, ben, si ça ne suffit pas, ben, vous allez utiliser aussi éventuellement l'hydraulique de barrage, parce que ça nous sert de réserve. Et puis, si ça ne suffit pas, ben, vous allez mettre en service des turbines à gaz, et puis éventuellement même des centrales à charbon. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est la dernière unité appelé, qui provoque le prix. Alors, pourquoi les prix ont complètement explosé de l'électricité, là? L'histoire commence par... C'est l'effet papillon, finalement. C'est les Australiens et les Chinois qui sont en indélicatesse. Les Chinois décident de ne plus acheter du charbon australien parce qu'ils sont un peu fâchés, vous savez, les sous-marins, les machins, les trucs, là. Résultat, ils ont moins de charbon que ce dont ils ont besoin pour produire leur électricité. Ils décident d'acheter plus de gaz. Et donc, ils captent tout le gaz qui sont sur les marchés. Donc, ça fait énormément explosé. Les prix du gaz ont considérablement augmenté. Donc, du coup, le problème, c'est que sur la plaque européenne, le dernier moyen appelé pour produire de l'électricité, le plus souvent, c'est du gaz. C'est du gaz. Et donc, ça provoque l'augmentation des prix. Alors, on se dit, nous, c'est vachement injuste pour nous, Français, parce que quand même, notre électricité, elle est quand même essentiellement d'origine nucléaire, donc on devrait en bénéficier. Mais sauf que, comme c'est un système de régulation à la maille du marché et qu'on est connecté avec l'ensemble du marché, de toute façon, forcément, il y a un moment où la puissance appelée, elle va être autre chose que du nucléaire. Et c'est pour ça que les prix, aujourd'hui, ils explosent. Parce qu'encore une fois, la régulation, par le prix, elle se fait pas. En fait, la régulation, il faut être en capacité de la faire par les coûts de production. Mais ça, c'est un autre modèle économique dont l'Europe a pas très envie d'entendre parler. Puis nos amis allemands, ils sont pas très chauds non plus, parce qu'ils se rendent compte...
Ouais.
Vous allez finir par croire que je suis un nostalgique du monopole avec ma carte de la CGT, mais oui, la réponse est oui. La réponse est oui. De la porte.
Voilà. Et il avait exposé sur la facturation sur les coûts de production.
Juste pour l'anecdote, et je vous assure que ce que je vais vous dire est tout à fait vrai. L'Europe considère que, justement, il faut que la concurrence fonctionne. Si ce n'est pas concurrentiel, ce n'est pas bon. Donc, EDF étant considéré comme un monopole, est considéré comme anticoncurrentiel. Donc, il fallait absolument faire émerger d'autres acteurs qu'EDF sur le marché. Donc, d'autres acteurs en capacité de vendre de l'électricité. Pour que ces acteurs soient en capacité de vendre de l'électricité, comme on produit de l'électricité à pas cher, EDF est obligé de vendre un quart de sa... Alors, au départ, c'était un quart de sa production nucléaire à 42 euros du mégawattheure. C'était ça le principe de démarrage. Puis d'ailleurs, le prix n'a pas été spécialement révisé. Voilà. Donc, vous aviez deux cas de figure. Soit sur les marchés de gros, les prix étaient très supérieurs à ça. Bah, du coup, les concurrents... Quand je dis les concurrents, c'est tous les concurrents, des tout petits concurrents, mais des concurrents comme Total Energy, etc. Ils achetaient, et puis du coup, ils revendaient au prix de marché, et donc ils gagnaient la différence. Et puis si le prix de marché était plus bas, ils allaient acheter sur le marché, et comme de toute façon, les quantités, on les avait réservées pour qu'ils puissent en disposer, on les revendait sur le marché, et donc on perdait la différence. Tout récemment, vu la flambée des prix, d'abord, il y a des concurrents qui ont fait faillite, il y a des concurrents qui ont décidé de résilier unilatéralement tout un tas de clients. Et puis, il y en a tout plein qui sont venus se plaindre en disant on s'en sort plus parce que c'est tellement cher sur le marché qu'il nous en faut encore plus. Et donc, il y a eu un décret qui a été pris en disant EDF va vous donner 20 TWh supplémentaires. Alors là, soyons généreux, c'est plus au prix de 42, c'est au prix de 46 pour finir l'année 2022. Sauf que, là aussi, on ne l'a pas forcément en tête, mais il y a fort longtemps qu'EDF a vendu toute sa production. La vente sur les marchés de gros, elle se fait à terme. Vous vendez parce que justement, si vous êtes capable d'anticiper, vous avez de meilleurs prix. Donc, nous n'avons plus cette production que nous devons céder à nos concurrents. Donc, le mécanisme est hyper simple. On va vendre à 46 euros du mégawattheure 20 TWh à nos concurrents. Et comme on ne l'a pas parce qu'on ne l'a plus, il faut qu'on leur rachète. Et on va leur racheter au prix moyen des trois derniers mois de l'année dernière, c'est-à-dire à 257. Non, pas 2, 10. 10 milliards d'euros de pertes. 10 milliards d'euros de pertes. Alors, on me dirait, c'est pas très grave parce que EDF, c'est la nation. Hein, c'est 84% de l'État. Mais enfin, c'est vous et moi. Et qui gagne? Alors, normalement, les concurrents sont censés répercuter ça sur les prix qu'ils vendent à leurs clients. Moi, j'attends de voir. C'est un système un peu shadow. In fine, oui, ça revient un peu à ça quand même, quoi.